Vous écoutez France Musique.
Bonjour, c'est le matin des musiciens. Dans notre série Musiciens ex cathédra, aujourd'hui Louis Vierne. Avec mon comparse habituel, dès qu'on parle d'orgue, mais pas seulement, la preuve, c'est qu'on ne va pas parler d'orgue, ou en tout cas très peu d'orgue, pendant ces trois émissions consécutives que nous consacrons à Louis Vierne, l'un de vos illustres collègues, Vincent Varnier, vous qui êtes organiste, bien sûr, l'organiste titulaire de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, qui est également professeur. On a eu l'occasion de faire cette année des émissions consacrées au programme du bac musique spécialisé. Et là, on s'est beaucoup enthousiasmé pour Louis Vierne. Alors, surtout moi, vous, c'était déjà fait, et de longue date. Je dois dire que j'avais des souvenirs de sa musique non organistique, puisque c'est cela, hein, puisque nous parlons de musique ex cathédra, c'est un petit jeu de mots, évidemment. Je me souvenais du quintet, évidemment, je me souvenais assez vaguement de la sonate pour violon et piano, comme étant une belle œuvre. Je savais qu'il y avait des mélodies assez belles, mais j'étais loin d'imaginer, en y travaillant avec vous, et en écoutant vraiment à peu près tout ce qui a été enregistré de sa musique, j'étais loin d'imaginer à quel point ce personnage, mort la même année que Maurice Ravel, en 1937, était une sorte de géant quand même de la musique. Difficile à situer, peut-être stylistiquement, moins facile à fixer, je dirais, plutôt que qu'à définir, par rapport à Debussy, à Ravel et à quelques autres, Fauré, Poulenc et les musiciens de l'entre-deux-guerres, mais une musique d'une qualité extraordinaire, qu'on ne connaît pas, que assez peu de gens connaissent, il faut le dire.
C'est vrai, Vierne a certainement été victime à ce niveau-là de sa immense réputation d'organiste de concert, de titulaire du mythique orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a occulté son activité de compositeur pour des formations aussi diverses, effectivement, que la musique vocale, la musique de chambre et la musique symphonique.
La musique symphonique, absolument.
Il faut dire aussi, Renaud, que ces compositeurs ont été victimes d'une forme de purgatoire, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, y compris d'ailleurs chez les organistes qui se sont beaucoup plus intéressés au renouveau de la musique ancienne. Et c'est vrai que cette école qu'on appelle de l'orgue symphonique a été quelque peu négligée et on s'intéressait peu à l'œuvre en général de Louis Vierne. Et c'est, moi je vous dis franchement, c'est grâce à la collection Musifrance et aux enregistrements de Jean Hubaud, notamment autour de Jean Hubaud, pianiste, qu'on a fini, il y a une trentaine d'années, par découvrir cette face cassée de l'iceberg et voir un compositeur considérable. Alors c'est vrai qu'il est difficilement classable parce que vous trouvez une multitude de sources d'inspiration et puis en même temps un langage qui est volontiers diffus entre la grande tradition symphonique française, entre une sorte de post-romantisme fiévreux et chromatique.
Élève de Franck, donc Franck est beaucoup là, encore.
Et tout à fait là. Et puis en même temps, quelqu'un qui est à l'écoute, évidemment, des nouvelles perspectives harmoniques, à la conquête du timbre, voulu effectivement par les noms que vous citiez tout à l'heure, notamment Debussy, qui aura aussi finalement inspiré notre musicien.
Et puis il y a Messiaen, tout d'un coup j'y pense, on parle de Debussy et Ravel, mais enfin Debussy était mort en 1918, et Vierne a continué à écrire de la musique, évidemment, jusqu'à la fin de sa vie, quasiment, même si c'est quand même progressivement retiré un peu de cette activité. Mais au fond, les dernières pièces de Vierne sont contemporaines des premières d'Olivier Messiaen. C'est dire que, à la même époque, coexistaient quand même des styles. Vous me direz, c'est la même chose à toutes les époques dans tous les pays. Enfin, voilà, c'était pas.
Bien sûr,
mais c'était une des propositions stylistiques de l'époque.
Absolument, qui pouvait être, comme très souvent chez ces organistes-compositeurs, perçue comme une sorte de dernier feu d'un académisme qui allait finalement disparaître avec la Première Guerre mondiale. Mais pensez qu'en 1911, Louis Vierne écrit une de ses chefs-d'œuvre, la troisième symphonie pour l'orgue, c'est l'époque où Stravinsky écrit L'Oiseau de Feu. Quoi.
Et puis, oui, et puis la première sonate de Boulez est écrite au moment où Strauss écrit ses dernières œuvres, Richard Strauss écrit ses dernières œuvres. Et puis Brahms, Wagner, enfin tout ça finalement avec le recul, on ne cesse de le dire dans cette émission, n'a pas grande importance. On se fiche de savoir aujourd'hui qui de Brahms ou Wagner était le moderne ou le ringard, comme on dirait aujourd'hui. Sauf que je pense que peu de gens oseraient dire cela de Brahms, mais on s'en fiche un petit peu. Lorsqu'on écoute la musique de Vierne, on la juge aujourd'hui pour sa qualité, peu importe de savoir si elle est plus avancée, comme on disait, n'est-ce pas ? Comme on dit de moins en moins, heureusement, que des musiques d'autres de ses contemporains. On va parler de ses années de formation, mais je voudrais qu'on écoute peut-être un petit peu de musique pour commencer, tout simplement, avec une de ses premières œuvres, écrite à la fin de ses études musicales, qui ont été très complètes, et qui vont nous donner quand même tout de suite une idée de la qualité musicale. C'est son Quatuor à cordes, qui date de 1894. Voici ce premier mouvement, où l'on va entendre des souvenirs, évidemment, de la grande forme du Quatuor à cordes. Mozart, peut-être, avec ses dissonances qu'on va entendre au début, qui rappellent le Quatuor dit les dissonances de Mozart, et puis la perfection, évidemment, héritée des modèles classiques, qui étaient la culture et le goût, évidemment, du jeune Vierne. Il avait 24 ans lorsqu'il a écrit ce Quatuor. Voici le premier mouvement par le Quatuor Spiegel. Thank you. Le premier mouvement du Quatuor à cordes, opus 12 de Louis Vierne. Alors c'est toujours intéressant ces musiques, Vincent Warnier, et cette musique en particulier que nous venons d'entendre par le Quatuor Spiegel, quatuor allemand, qui s'occupe de musique française, c'est très bien. Enfin, est-ce de la musique française?
Ça, c'est une vraie question, Renaud, c'est une vraie question.
C'est une sorte de Mendelssohn, un peu, non?
Mais bien sûr, et un petit peu matiné de l'esprit franquiste.
Oui.
Le pater Seraphicus n'est pas loin. Vous savez, Vierne a été élève de Franck à l'âge de 18 ans.
Qu'il vénérait.
Il n'a, hélas, pas pu terminer son cursus d'orgue, parce que la classe de Franck était la classe d'orgue et d'improvisation. Et Franck n'a jamais enseigné la composition. Mais c'était évidemment une classe de composition déguisée. Qui avait-il dans cette classe d'orgue? De futurs grands organistes, certes, mais aussi Debussy en auditeur, Chausson, Duparc.
Comme la classe de Messiaen, qui était une classe aussi de composition déguisée.
Bien sûr, elle s'est appelée classe d'analyse et de philosophie de
voilà,
la musique. Donc, on y apprenait la composition. Debussy, d'ailleurs, vous connaissez bien, il disait « Monsieur Franck est une machine à moduler ». Lorsque Franck faisait improviser le jeune Debussy, qui déjà aimait ses accords sur les touches blanches qui n'évoluaient pas beaucoup, comme des couleurs, beaucoup plus que comme des fonctions harmoniques, en tout cas, eh bien, Debussy, évidemment, avait parfaitement compris le langage de César Franck, mais Vierne, certainement, lui l'a adopté, si vous voulez. Alors, Vierne n'a jamais été élève en classe de composition au conservatoire, c'est intéressant. La composition, il l'a travaillée, je dirais, au clavier en improvisant pour Franck, mais Franck est mort en 90, donc il ne l'a pas eu beaucoup comme professeur. Ensuite, il a été chez Vidor.
Et oui.
Vidor l'a fait travailler, voyant le génie, déjà, de ce jeune homme qui était non-voyant, qui sortait de l'école.
Alors, pas complètement aveugle. Pardonnez-moi de dire aveugle, parce que j'ai toujours dit aveugle.
Il était malvoyant.
Et
ça a été de pire en pire, hélas,
voilà.
Pour lui.
Mais enfin, il a toujours gardé un petit peu de vision.
D'ailleurs, toutes ses œuvres sont écrites selon le principe traditionnel. Il avait appris le braille pourtant, mais il écrit. Et à l'école des jeunes aveugles, à l'Institut national des jeunes aveugles, il avait aussi été élève de Franck. Il avait également étudié le violon. Ce qui explique aussi cet attrait pour les instruments à cordes. Et Vierne travaille avec Vidor la composition également. Il aurait pu être élève de Fauré classe de composition. Il ne l'a pas été, mais il l'admirera, nous le verrons. Alors, que dire de cette aspiration? C'est vrai que c'est davantage vers les maîtres romantiques allemands qu'on se tourne, avec ces syncopes, vous avez entendu, très fiévreuses, qui rappellent le Mendelssohn de jeunesse ou Schumann également, avec ses déséquilibres rythmiques.
Bien sûr.
Et puis la structure mélodique, ça n'appartient qu'à Vierne. Mais on peut y voir des racines dans l'enseignement franquiste. Par exemple, ce thème du premier mouvement. Vous avez entendu une petite cellule qui est reprise de façon séquentielle sur elle-même, sous forme de répétition, mais avec chaque fois l'intervalle de base qui augmente. Et ça fait donc une sorte de développement par accroissement d'intervalle que vous trouvez beaucoup dans la musique de César Franck, par exemple. Et ça va être un héritage absolument merveilleux. Puis la forme, introduction lente, mystérieuse. Et on lance l'allegro avec ces deux thèmes qui s'élancent et surtout qui dialoguent et qui entretiennent vraiment une rhétorique extrêmement fructueuse.
C'est un travail académique dans le meilleur
sens
du terme.
Absolument.
Je suis désolé, lorsqu'on écoute cette musique, qui rappelle, je le disais tout à l'heure aussi, un peu le quatuor de dissonance de Mozart, courte introduction.
Oui.
Quand on écoute ça, au fond, on se fiche totalement de savoir à quelle époque, par qui, comment. C'est une musique de très belle facture et d'une jolie inspiration.
C'est vrai. Et puis,
on est loin des grands chefs-d'œuvre qui vont venir, de Vierne, mais on est quand même dans quelque chose qui est plus qu'un devoir d'élève.
Oui, une vraie œuvre de compositeur et qui laisse présager le meilleur. Il y a tout Vierne déjà qui est en germe. Certes, c'est pas très inventif sur le plan de l'écriture pour quatuor. Pensez que Debussy, bon, qui était quand même un peu plus âgé que Vierne, ils avaient 8 ans de différence d'âge, dans son quatuor, vraiment réinvente un petit peu cette écriture qui, à la fois, cherche vers l'orchestre, cherche vers le domaine de la résonance également, avec une virtuosité au sens noble du terme que Vierne n'a pas ici. Hein. Ça reste une musique essentiellement linéaire. Et ça, c'est le côté organiste de Vierne. N'oubliez pas que César Franck enseignait l'improvisation scolastique, où il fallait improviser des fugues avec contre-sujets obligés. Et croyez-moi que l'écriture rigoureuse était absolument nécessaire lorsqu'on voulait poursuivre ses études d'orgue. On le retrouve dans le Vierne compositeur.
Il a fait ses études générales et musicales, entre autres, d'autres études bien sûr, à l'Institut national des jeunes aveugles.
Oui, alors ça c'est une école d'élite pour évidemment ces musiciens.
C'est-à-dire qu'on n'y acceptait pas les gens uniquement parce qu'ils ne voyaient pas.
Ah non, c'était...
Il fallait qu'il soit vraiment doué pour la musique, on est bien d'accord.
Ah, complètement. Et c'était un cursus très complet où il y avait évidemment l'étude de deux instruments.
Je voudrais peut-être vous lire, Vincent Varnier, si vous le voulez bien, le descriptif que fait dans ses souvenirs Louis Vierne. Ça a été publié il y a quelques années, c'est plus ou moins introuvable aujourd'hui, justement sur ce qu'on demandait aux élèves. Et d'abord, le plan des études, nous dit-il, 3 années de solfège, 3 d'harmonie, 2 de composition était le minimum exigé. Outre le piano obligatoire pour tout le monde, chaque élève était astreint à pratiquer un instrument d'orchestre désigné d'après ses aptitudes physiques. Le violon me fut attribué. Les élèves étaient classés pour le piano et l'instrument en division, partant de celle d'essai à la première, répartie par conséquent en 7, échelonnés sur les 7 premières années d'études, un peu comme la médecine, mais en sens inverse quant à la numérotation, la 6e division venant après celle d'essai et ainsi de suite. Donc, on voit très bien qu'il fallait faire déjà du piano et il fallait jouer un autre instrument et lui faisait l'orgue et puis on jouait dans un orchestre. C'est ce qu'il dit un peu plus tard. À partir de la 4e division, tous les élèves faisaient obligatoirement partie de l'orchestre qui donnait 4 concerts par an, sans compter celui des prix et parfois ceux donnés pour des circonstances exceptionnelles.
Alors imaginez tous ces élèves aveugles ou non-voyants jouer ensemble. Ça en dit long encore sur la cohésion du groupe, puisqu'ils étaient pour la plupart d'entre eux incapables de voir un chef d'orchestre. Formation extrêmement complète, et d'ailleurs je crois bien que Vierne avait joué la sonate, la célèbre sonate de César Franck pour violon et piano, pour son diplôme d'honneur de l'Institut, avec César Franck au jury, qui l'a conseillé de se détourner d'une carrière de professeur, parce qu'il avait senti évidemment que pour Vierne, ses années d'études aux jeunes aveugles, c'était le tremplin pour aller vers le conservatoire. Par la suite, Jean Langlais et Gaston Litaize, par exemple, tous deux non-voyants, ont suivi le même parcours.
Alors, on a intitulé cette série de 3 émissions que nous faisons, Vincent Varnier, sur Louis Vierne, à propos de Louis Vierne et de sa musique non organistique. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ex Cathedra. Nous avions déjà, il y a quelques mois, fait une émission de la sorte consacrée à votre prédécesseur, à votre tribune de Saint-Étienne-du-Mont à Paris, Maurice Duruflé. Et aussi là, la musique de Duruflé non organistique qu'on connaît mal. Mais évidemment, pour parler du langage musical de Vierne qui s'établit, on ne peut pas totalement faire l'impasse sur sa musique d'orgue. Ça sera évidemment mineur, minoritaire, en tout cas dans cette émission. Mais il y a d'extraordinaires chefs-d'œuvre. Alors, je me sens d'autant plus à l'aise pour proposer aux auditeurs d'accepter d'en entendre avec nous que eh bien, les œuvres de concert ont été jouées très souvent, parfois créées dans les églises, évidemment, parfois pas. Hein, c'est le cas, je crois, de la 3e sonate qui n'a pas été créée dans une église.
Absolument. La 3e symphonie a été créée.
3e symphonie, pardonnez-moi.
Oui, a été créée par Marcel Dupré à la salle Gaveau.
Voilà. Donc, on peut tout à fait entendre ce genre d'œuvre. Et surtout que là se trouve également, bien sûr, le très très grand Vierne. On peut écouter peut-être le premier mouvement de sa 1re symphonie, qui est son opus 14, donc un peu après Squatior. Ça date de 1898-1899. Donc le jeune homme a maintenant presque 30 ans, tout de même. Et c'est son premier grand opus d'orgue, on peut le dire. Hein.
C'est la première grande œuvre d'orgue, une œuvre monumentale en 6 mouvements. Écrite certainement sous l'influence de ce que Vierne vivait au clavier du grand orgue de Saint-Sulpice, puisqu'il était le suppléant de son maître bien-aimé Charles-Marie Vidor. 1 an plus tard, en 1900, le jeune Vierne, 30 ans, va être nommé à l'orgue de Notre-Dame. Alors, si Vierne compositeur et Vierne improvisateur étaient de tout de ce niveau de ce qu'on entend là, croyez-moi que personne ne sera étonné de savoir qu'il a triomphé de ce concours.
un ré mineur dramatique avec ce thème qu'on entend de la quatrième de Beethoven à la première de Mahler jusqu'aux heures, le film pour lequel Philippe Glass a réalisé une partition d'exactement cette chose-là et qui là traverse la musique. Dites-moi, Vincent Varnier, comment les contemporains de Louis Vierne, dont on vient d'entendre le premier mouvement de la première symphonie pour orgue en ré mineur opus 14, écrite à l'âge de 28-29 ans, au tournant du siècle, comment les gens de l'époque l'ont reçu?
Je pense que les gens
devaient être, génie, là. Enfin,
bien entendu, très impressionnés. Vierne était encore quelqu'un d'assez marginal hein, dans le monde de la musique et le monde de l'orgue. Et il fait une irruption fracassante avec cette première symphonie qui va tout de suite avoir un immense succès. Alors, qu'est-ce qui fait l'originalité? C'est pas tellement la forme. Vidor, le maître vénéré, avait inauguré cette notion de symphonie pour orgue. On en avait parlé. C'est-à-dire que c'est à la rencontre de ces instruments d'Aristide Cavaillé-Coll, le génial facteur d'orgue, né en 1811, qui a révolutionné vraiment l'esthétique même de l'instrument orgue en allant inventer de nouveaux timbres qui imitent l'orchestre, mais c'est aussi dans la masse, dans la couleur.
Dans les fondus aussi.
Dans le fondu.
On est
tout à fait à l'opposé, n'est-ce pas, de la clarté, de l'élocution, de la diction très précise des orgues classiques, par exemple.
Là,
on cherche beaucoup plus la masse sonore et surtout ce côté très sombre. Alors, la symphonie de Vierne en question, elle utilise ici un prélude. Il y a ensuite une fugue, une pastorale, un intermezzo, un mouvement lent et un final. C'est un peu une symphonie tirée suite, telle que Vidor la pratique aussi, hein, mais c'est dans le langage. Ce qui est formidable et ce qui vraiment le démarque beaucoup de ce qui se faisait à l'époque, c'est ce langage chromatique, cette expression sombre qui naît des ténèbres de l'instrument. Par exemple, le début, il commence sur le clavier de ré. Ici, on entendait l'orgue de Saint-François de Sales à Lyon. Et Ben Van Osten utilise justement la registration de Vierne qui est indiquée. Ce sont des jeux d'anges, mais qui sont enfermés dans une boîte. C'est-à-dire que tous les tuyaux en question sont vraiment comme joué en sourdine, comme un orchestre de coulisses. Et ce thème que vous avez chanté tout à l'heure...
Enfin, j'ai essayé de chanter.
Mais, oui, et en fait, l'unique élément thématique de tout le mouvement. Quel travail il fait à partir d'un élément très simple.
Comme s'il avait utilisé un élément de plein chant.
Oui,
D'ailleurs, il le traite finalement comme une sorte de mélodie de plein chant.
En effet, jusqu'au tutti, puisque vous aurez remarqué que cette pièce a une forme en arche, ça Vierne aime beaucoup. Hein. On part de rien, presque de la création du monde, avec ce ré mineur lointain. Un immense crescendo qui envahit tout l'espace de l'église, parce que là, évidemment, l'élément résonnant de l'église et des voûtes est important. Et puis on revient du début, l'apparition disparaît comme ça. De manière sinistre et définitive. C'est une œuvre absolument saisissante et permettez-moi de vous dire que je pense que c'est vraiment le sommet de cette première symphonie.
Oui, et puis on entend quelque chose qu'on va retrouver dans la musique de Vierne jusqu'à la fin, c'est-à-dire un ton orageux, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose d'un gris ardoise dans tout ça. Il y a quelque chose de sombre, quelque chose de véritablement... intérieur et oui, de sombre et de voilà, on sent un caractère qui était le sien, un caractère ombrageux, difficile, quelqu'un d'intéressant, tourmenté, voilà.
C'est
le mot que je cherche.
Vierne est un tourmenté et c'est intéressant parce que c'est pas sur le plan des formes qu'il innove, mais par exemple quand il écrit une pièce à deux thèmes, on dirait un combat avec lui-même. Ça vient de Franck aussi, cela. Vous avez souvent un premier thème, dans un premier mouvement du quatuor, par exemple, ou plus tard des autres de musique de chambre, ou des mouvements de symphonie, un premier thème rageur, un premier thème ombrageux, et un deuxième thème qui semble être une sorte d'îlot de sagesse, de réflexion, de lumière, et très vite les ténèbres engagent une lutte sans merci. Hein. Un combat intérieur peut-être qui se cristallise dans une forme académique, la forme sonate a deux thèmes, justement, deux personnages qui luttent pour exister, mais une lutte sans merci.
Alors, il y a autre chose dans la vie de Vierne et dans la musique de Vierne, ce sont les mélodies. On va les aborder assez vite parce qu'il en écrit très tôt. Il en écrit à la même époque, même un peu avant cette symphonie, et il met Verlaine en musique lui aussi, comme tant d'autres de compositeurs. Alors, parmi les séries que j'ai eu le plaisir de produire sur cette chaîne, il y en a eu beaucoup avec François Leroux l'année dernière, l'année d'avant, où nous avons fait un parcours de nombreux compositeurs de mélodies françaises. C'est la spécialité de François Leroux, naturellement, qu'il a beaucoup enregistré lui-même et qu'il connaît parfaitement. Et je ne crois pas me souvenir d'ailleurs que dans ces émissions, nous avions trop entendu évoquer Louis Vierne, qu'il connaît naturellement. Alors, il y a des chanteuses dans la vie de Vierne. C'est ça qui est assez abusant, c'est qu'il a une vie, par ailleurs, assez mouvementé. Alors on va voir beaucoup de drames, hein, des pertes de proches, d'enfants, des soucis familiaux, la maladie pour lui-même, grande souffrance, et puis cette vision qui ne cessera de se dégrader aussi parce qu'il travaillait beaucoup, parce qu'il s'est usé véritablement à écrire avec des loupes et à écrire sous des lampes particulières pour réussir à voir. Il travaillait parfois en braille, vous le disiez, mais pas toujours. Il transcrivait lui-même parfois à partir du braille, d'un premier jet en braille. Et tout ça lui a beaucoup causé de problèmes. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui quand même fréquente qui fréquente les chanteuses.
Oui, et qui a une vie mondaine. Et ça, certainement que Charles-Marie Vidor l'a aidé. Vidor, alors, c'était vraiment le musicien dans la ville, le musicien dans l'État, presque.
Fauré aussi. Fauré mettait sa queue de pile le soir et sortait dans les salons.
Dans les salons, bien entendu.
C'est là que ça se passait.
Mais
c'est là que la musique circulait. Hein,
bien sûr. Pensez que Vidor va être secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, ce sont des gens qui ont beaucoup de pouvoir sur la vie musicale qui était exaltante à cette époque-là, notamment sur le plan de la création. Et Vierne, bien entendu, avait cette vie mondaine, fréquentait les salons, tombait facilement amoureux des chanteuses et il leur écrivait évidemment des mélodies et ça va être le cas jusqu'à la fin.
Et c'est ça qu'on entendait dans les salons, c'est là qu'on faisait entendre les mélodies, Fauré le fera beaucoup, tous les compositeurs le feront. Et puis c'était aussi souvent l'occasion pour ces compositeurs de montrer qu'ils étaient capables d'écrire pour la voix en espérant écrire pour le théâtre. Hein. Fauré, on sait quasiment toute sa vie, a voulu beaucoup plus tôt qu'il ne l'a fait avec Pénélope, voulait avoir une commande hein, pour la scène lyrique. Ça viendra tard, c'était peut-être pas sa vraie nature, peu importe. Mais en tout cas, c'était une manière aussi de faire entendre ce qu'on était capable de faire avec les mots. On ne pourra pas l'entendre dans le cadre de ces trois émissions, parce qu'il n'y a pas d'enregistrement à ma connaissance. Vierne va écrire une sorte de cantate, non, un opéra, véritablement, une légende lyrique, oui. Pour trois personnages. En attendant, écoutons, parmi ces toutes premières mélodies, c'est l'opus 18, c'est le premier, de cet opus 18 qui date de 1895-1897, il a donc entre 25 et 27 ans. Ça s'appelle L'heure du berger, c'est Mireille Delinche qui l'interprète, accompagné au piano par François Kerdoncuff.
Dans un brouillard
Voilà un exemple des premières mélodies de Louis Vierne. Ça, c'est son opus 18 et c'est sur un poème de Verlaine. C'est Mireille Delinche qui l'interprétait avec François Cardoncuff. Au piano, une diction perfectible, on va dire, on ne comprend pas tout, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir un bon enregistrement de cette musique. Je dois dire qu'il y a deux autres quasi intégrales des mélodies de Vierne, mais qui sont vraiment par des interprètes que je ne recommande pas. Et il faut saluer Timpani, qui a été un label qui, avec des disques au bonheur divers, on va dire, avec des réussites plus ou moins grandes, et parfois pas de réussite du tout d'ailleurs, dans le cas de la musique de chambre, il y a des choses qui ne sont vraiment pas terribles, mais il y a aussi d'excellentes choses. Mais au moins, cette musique nous a été donnée à entendre. Et je signale aussi pour les auditeurs qui le souhaiteraient que les partitions de Louis Vierne sont sur Internet très facilement trouvables. Il y a un site assez connu qui est semi-légal puisque les problèmes de copyright ne sont pas les mêmes selon les pays, mais enfin, on ne fait pas grand-chose de mal en allant consulter les mélodies ou la musique d'orgue de Vierne sur ces sites Internet. Il me semble que ce n'est pas très, très, très grave. Là, on est dans un cadre de mélodies très loin, par exemple, de Gounod. Alors, les mélodies de Gounod sont un peu avant, bien sûr, mais pas toutes d'ailleurs, mais enfin, sont quand même d'une autre époque. On est évidemment près du parc, on sent l'ampleur du piano, on est assez proche aussi d'un musicien même comme Charles Quéclin. Les premières mélodies de Quéclin sont avec un accompagnement de piano très ample. Il y a d'autres exemples. Et en fait, Louis Vierne, j'ai lu, en préparant avec vous cette émission, j'ai lu qu'il parlait de leader d'ailleurs, très souvent à propos de ses mélodies. Il n'employait pas le terme mélodie, il employait le terme leader. Ce qui veut donc dire qu'il y avait une référence très évidente au lead germanique.
Au lead germanique, qu'il organisera par la suite, d'ailleurs, sous forme de cycle. Et comment ne pas penser aux Amours du poète de Schumann, lorsqu'on pense au poème de l'amour de Vierne sur les textes
bien
de Jean Richepin.
Hein. Avec aussi le piano qui prend son indépendance, hein, qui est important en texture, comme on le voit là, mais qui prend son indépendance. Et puis on entend aussi dans ce piano l'orchestre. Et d'ailleurs, beaucoup des mélodies sont orchestrées. Malheureusement, là, on ne trouve pas grand-chose en enregistrement.
Oui, ça mériterait d'être fait.
Ah, oui.
Et moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de voir le Vierne ex cathedra qui n'essaye pas de transposer sa culture organistique. Et c'est à tout autre compositeur. Ça m'intéresse énormément de voir ces musiciens organistes qui, lorsqu'ils écrivent pour le théâtre, pour la voix ou pour la musique de chambre, eh bien, se départissent totalement des idiomatismes et surtout des automatismes d'écriture. Et souvent, vous m'avez taquiné lorsque vous me disiez « ça fait un peu musique d'organiste » lorsqu'on écoutait certains organistes qui orchestraient, par exemple.
Oui.
C'est pas le cas de Vierne. Et je dirais même que Ropart, par exemple, lorsqu'il écrit pour l'orgue, est très sage, parce que c'est l'Église, évidemment. Et c'est un autre compositeur, bien plus aventureux, lorsqu'il se départit de ce carcan, finalement, quelque peu conventionnel.
Vous parlez de Ropart, tout d'un coup je me souviens aussi qu'il y a des mélodies de Ropart qui ressemblent beaucoup à ça. Hein.
Bien sûr.
On est dans une tradition qui n'est pas du tout, on sent là que Vierne n'a pas envie du tout de copier Debussy, de copier le Ravel, le Fauré, pardon, le plus félin. Si ça ressemble à Fauré, c'est les mélodies les plus sanguines de Fauré. Hein. Il en est, hein. Le Fauré n'est pas toujours fauréen, entre guillemets.
Loin d'être éthéré systématiquement. Hein.
Il n'est pas du tout là-dedans.
Hein. Non, et puis...
Il est dans le lead, il est vraiment dans l'exemple du parc. Hein.
Bien sûr. Et puis, bon, les rapports du texte et de la musique sont évidemment parfaitement maîtrisés quant à la prosodie choisie par Vierne. Mais, par exemple, la partie de piano, qui n'est pas un accompagnement, vous l'avez compris, marche sous forme d'ostinato ici, rythmique en tout cas, ce qui n'est pas du tout le cas des mélodies de Debussy, ou très très rarement. Hein. Donc on est plus effectivement dans une tradition du lead romantique allemand.
Alors, comme on est dans cette première émission, dans une sorte d'exploration de la pluralité stylistique de Vierne, pour essayer de voir comment ce musicien, dans ses jeunes années, puisque nous n'avons pas encore dépassé le siècle, hein, il a à peine 30 ans dans toutes ses musiques, et ça va être le cas dans la prochaine musique que nous allons entendre, eh bien, nous avons choisi, pour ce faire, cher Vincent Varnier, de faire entendre une suite bourguignonne, qui n'est sûrement pas parmi les grandes œuvres de Vierne.
Non.
Il a écrit beaucoup de musique de piano et de très grande qualité. Il y a une série de préludes, il y a des pièces de la fin de sa vie qui sont vraiment très très étonnantes. Mais ce qu'on voulait peut-être faire entendre aux auditeurs là, par cette suite, c'est comment, dans un même cadre, il peut s'abreuver à des traditions diverses. Et là, on va retrouver Chabrier, le Chabrier le plus badin.
Le plus tendre aussi, vous.
Oui, vous pensez,
je pense, aux pièces pittoresques.
Oui, bien sûr.
Alors là, c'est le Vierne qui s'intéresse aux ce qu'on appelle les pièces de genre. Hein. Beaucoup de musiciens français, d'ailleurs pas forcément spécialistes du piano, je pense à Massenet, je pense à Bizet par exemple, qui utilisent souvent des pièces dont les titres évoquent davantage des pièces de fantaisie, des paysages, des sentiments, etc. Et souvent, c'est amusant, ils ont des titres communs, l'un copie l'autre. Par exemple, Idylle, la première pièce de la suite bourguignonne que nous allons entendre, eh bien, Chabrier... Il y a aussi une célèbre pièce pittoresque, magnifique d'ailleurs, qui s'appelle aussi Idylle.
Vous avez raison de rappeler qu'il y a aussi de la poésie chez Chabrier. Il n'y a pas seulement que des mollets bien galbés et des danses un peu... Voilà.
Oui, oui, oui.
Il
n'y
a pas que ça.
Pas que des bourrées fantasques,
n'est-ce pas ? Il n'y a pas que cela. Écoutons trois extraits de cette suite bourguignonne qui date de 1899. Il dit donc divertissement et cette danse rustique qui me semblait la plus typique, dirons-nous, du Chabrier dont je voulais me souvenir. Thank you. trois extraits de la suite bourguignonne, une œuvre tout à fait pittoresque, en référence évidemment aux pièces du même nom, pièces pittoresques évidemment, d'Emmanuel Chabrier, auquel évidemment Vierne n'a pas pu ne pas penser en écrivant cette suite bourguignonne, avec aussi la poésie qu'on retrouve chez Chabrier, et ce côté plus typiquement Chabrier, peut-être le Chabrier plus franc, plus joyeux,
plus rustique,
plus bourré fantasque.
Absolument, absolument. Vous avez dans la dernière des pièces que nous écoutions. Néanmoins, il y a déjà quand même des passerelles avec ce qu'il écrit pour orgue. On est tout à fait contemporain de la première symphonie. Le sombre prélude que nous écoutions cède la place très vite dans la symphonie à un intermezzo qui est un scherzo. Vierne va exceller aussi dans le genre scherzo virevoltant, si vous voulez,
comme dans les pièces de fantasy aussi.
Comme dans les pièces de fantasy, avec un côté très visuel, ce qui est toujours assez étrange de la part de quelqu'un qui est malvoyant, cet attrait pour la couleur, pour les choses scintillantes, et même pour les registrations de l'orgue.
C'est l'œil interne, l'œil intérieur, comme on dirait l'oreille intérieure, finalement.
Absolument.
Moi,
absolument.
Je crois beaucoup à ça.
Ah, mais complètement. Et quand on écoute le divertissement ou certains petits couplets là, dans cette danse rustique, on voit d'ailleurs d'une exécution difficile des mouvements parallèles de tierces, de sixtes à la même main. Bon, c'est vraiment une étude technique, vraiment. Et vous avez ce côté virevoltant, très léger, que vous retrouvez dans son écriture d'orgue. Et là aussi, il a beaucoup fait évoluer l'écriture d'orgue. C'est-à-dire que ça va à la rencontre aussi de cette agilité pianistique qui vient nourrir aussi la manière d'écrire pour l'orgue. C'est très intéressant.
Vincent Varnier, après ces trois pièces de la suite bourguignonne qui étaient jouées par Olivier Gardon, qui a réalisé une intégrale de la musique pour piano seul de Louis Vierne, également chez Timpani, devenu l'éditeur de ce musicien, l'éditeur discographique, mais aussi de tant de musique française inconnue. Ils ont en particulier toute une anthologie de mélodies qui sont vraiment très très intéressantes, qui a permis de retrouver des raretés de ce répertoire. Donc après ces trois extraits pianistiques, nous allons passer à ce qu'on peut considérer comme étant le premier chef-d'œuvre de cette jeune maturité de Louis Vierne. Il s'agit de sa sonate pour violon et piano qu'il écrit à l'âge de 35 ans. Là, on a passé le siècle, nous sommes en 1905, entre 1905 et 1907. Et cette sonate, dit-on, je l'ai lue, est considérée comme son premier grand chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qui en fait le prix, véritablement ?
Ben, c'est déjà son dédicataire, puisqu'elle est dédiée à Isaïe. C'est quand même le créateur de la sonate pour violon et piano de César Franck, du quintet du même César Franck. C'est vous dire le niveau d'exigence aussi. Et Isaïe va tout de suite proclamer au monde musical que cette sonate pour violon et piano de Louis Vierne est la meilleure œuvre écrite pour cette formation depuis la sonate de César Franck.
Et puis il va la jouer, il va la jouer partout. Et c'est extraordinaire comme
c'est une promotion.
Une promotion extraordinaire.
Bien entendu. Alors moi, ça m'intéresse parce que le Vierne intimiste, le Vierne violoniste qui se souvient de sa jeunesse finalement.
Et oui, rappelons-nous qu'il avait appris le violon comme instrument obligatoire à l'Institut National des Jeunes Aveugles.
Et c'est l'antidote du Vierne monumental de Notre-Dame, de l'organiste des cinq claviers du plus grand orgue de France, du royaume, aurait-on dit, sous l'Ancien Régime. Mais c'est ça, il y a ce côté-là quand même chez Vierne, c'est cette double appartenance, cette bipolarité entre un univers intime, chambriste, qui livre les pensées les plus profondes de sa réflexion, et puis le Vierne monumental qui trompette la gloire des corps célestes du haut de sa tribune à Notre-Dame. Alors, cette sonate, bien entendu, elle correspond à une période noire de la vie de Vierne. C'est, dit-il dans ses mémoires, le début des catastrophes, 1906.
Et il y en a eu beaucoup.
Voilà, et c'est cette
catastrophe
aspect
familiale, catastrophe personnelle, bien sûr, sa santé.
Ça va être une sorte d'enchaînement de catastrophes qui vont avoir une sorte d'exutoire dans la musique. La composition chez Vierne, c'est un garde-fou, c'est une manière, je dirais, de retrouver une forme de sérénité, une forme de discipline par rapport à la spirale de la dépression dans laquelle il tombe très souvent. Ceci dit, on l'entend vraiment dans cette sonate. Ce premier mouvement véhément, presque violent, là encore un thème caractéristique de l'auteur. Une carrure irrépressible, un piano qui gronde dans ses arpèges souterrains, un violon qui tente désespérément d'atteindre sa phrase, la fin de sa phrase, par des soubresauts, des hoquets presque. Et arrive le second thème, cet havre de paix, qui rappelle beaucoup d'ailleurs le thème de la sonate de Franck. Vous verrez, c'est assez extraordinaire.
Nous n'aurons pas le temps d'écouter la sonate en entier, Vincent Warnier. Il y a un mouvement lent en particulier qui est très beau, comme souvent les mouvements lents de Vierne. Là, on ne l'entendra pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a un mouvement intercalaire et puis un final.
On garde la forme traditionnelle hein, de la sonate en quatre mouvements, un scherzo, assez court, avec son trio.
L'une des spécialités de Vierne, vous l'avez dit.
Absolument, qu'il va décliner hein, sous forme là, de duo violon-piano, mais on le trouve dans le quatuor que nous écoutions, on trouve dans beaucoup d'autres, dans le quintet, enfin, dans les symphonies.
C'est une forme académique. C'est un obligato académique, hein, on va le rappeler, évidemment.
Tout à fait. Et puis, le final, qui reprend un peu les principes du premier mouvement, mais de façon plus optimiste sur le plan thématique. Et ce qui est intéressant, c'est souvent chez les disciples de Franck, vous savez, les réexpositions dans les derniers mouvements donnent lieu à de nouveaux développements et souvent c'est un peu long.
Voilà.
Chez Vierne, jamais. Il faut savoir toujours bien terminer une symphonie, une sonate.
Vous voulez dire qu'il raccourcit ?
Les réexpositions sont souvent tronquées.
Tronquées ?
C'est-à-dire qu'on s'attend à une reprise des éléments. Comme
à l'identique ?
Très peu à l'identique.
Mais normalement, c'est à l'identique.
Normalement, c'est à l'identique, avec quelques modulations, quelques... Il y a l'esprit de la variation aussi, oui, Beethoven le fait remarquablement. Mais chez les disciples de Franck, souvent, les réexpositions sont encore développées, pas chez Vierne. On va droit au but, et au contraire, ça ajoute une tension supplémentaire qui tend, évidemment, à illustrer cette bourrasque intérieure qui l'anime.
Nous allons donc entendre le premier, le troisième et le quatrième mouvement de cette sonate de Louis Vierne dans l'interprétation considérée comme étant celle de référence. C'est Olivier Charlier qui est au violon et c'est Jean Hubaud qui a aussi enregistré le quintet auquel nous viendrons dans la prochaine émission, le quintet du même Louis Vierne. C'est un disque qui était paru chez Erato, Musifrance. Thank you.
Thank you. Thank you.
premier, troisième et quatrième mouvement de la très belle et très importante sonate dans le répertoire de la musique française de cette époque. Je rappelle qu'elle a été écrite en 1905-1907 par Louis Vierne. C'était Olivier Charlier au violon et Jean Hubeau au piano. Merci à l'équipe qui nous entourait aujourd'hui, Cédric Chatelus, Émilie Guilloiseau, Géraldine Prutner qui a réalisé cette émission et Flora Sternadel qui m'a aidé à la préparer. À la semaine prochaine, Vincent Varnier.
Au revoir Renaud Machard.